Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Legio Box consacré aujourd'hui aux Negro Spirituals et au Gospel, les chants de ralliement des esclaves. C'est parti! L'évangélisation des esclaves du sud des États-Unis débute au XVIIIe siècle avec l'envoi de missionnaires. Ces derniers se rendent dans les plantations en quête d'âmes à sauver. Le mouvement prend une ampleur véritablement spectaculaire lors des Great Awakenings, les grands réveils religieux de 1734 et 1801. Les prédicateurs, appuyés par les planteurs protestants, cherchent désormais à éradiquer les anciennes pratiques païennes des esclaves, incités désormais à chanter les louanges du Seigneur. Les vieux psaumes poussifs sont supplantés par des hymnes plus courts et accessibles. Au sein des communautés religieuses noires, pentecôtistes, baptistes et méthodistes, les fidèles interprètent ces hymnes à leur manière. Par leur expressivité, leur structure harmonique, l'importance accordée à l'improvisation, l'utilisation du call and response, ces hymnes revisités s'inscrivent dans une culture véritablement afro-américaine. Why don't stop, steal, stop, stand, listen, I tell you about the story about Jerry Billy, cause the sin was so weak and Jehovah got angry, I saw him with the leap and the jumping in the hell, way back yonder in the old undata, and John told Jerry Billy about her way, cause there's the evil deed that ruined the land, you repent, but the kingdom of God is at hand, she got mad at John cause he told about the gospel. Les esclaves s'approprient également les hymnes protestants traditionnels en modifiant les paroles, se dotant ainsi d'un répertoire musical religieux propre. Ces Negro Spirituals, ainsi qu'on les désigne, s'imposent comme un des moyens d'expression privilégiés parce qu'autorisés des populations serviles. À partir des années 1860-1870, les Spirituals cessent d'être exclusivement transmis oralement et commencent à être assemblés par des collecteurs dans des recueils. Face à une vie terrestre faite de misère et d'exploitation, les Spirituals annoncent la résurrection à venir, le triomphe de l'espoir sur la misère et la délivrance. Non seulement ces chants reflètent la foi profonde des Afro-Américains, mais renferment aussi parfois des messages plus ou moins codés, dont le contenu émancipateur contribue à remettre en cause l'institution esclavagiste. Les paroles, dont le propos reste d'abord religieux, sont construites de manière à pouvoir être transposées dans le contexte de la vie quotidienne des esclaves. Ces derniers détournent ainsi le sens des textes puisés dans l'Ancien Testament. Les récits des souffrances et des peines endurées par les Hébreux, réduits en esclavage par le Pharaon, entrent en résonance avec le quotidien des populations noires serviles du sud des États-Unis. La plupart des maîtres d'esclaves ne peuvent pas les comprendre ou sont obligés de les tolérer. Go Down Moses, un des plus célèbres et anciens spirituals, s'est inspiré du livre de l'Exode, tiré de l'Ancien Testament. Les paroles racontent l'histoire de Moïse arrachant les Hébreux à la terre de servitude égyptienne. Je cite « Descends Moïse, descends sur la terre d'Égypte, dis au vieux Pharaon de laisser mon peuple partir. » Le texte est une allégorie évidente de la quête de liberté des esclaves. Sur le disque « Louis and the Good Book », Armstrong récite les couplets, tandis que le chœur répète la fameuse réplique « Let my people go ». So the Lord said, go down, Moses,
Moses,
way, way down, down in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go,
let my people go.
La figure de Moïse est prépondérante car il est celui qui conduit les esclaves vers la terre promise de Sion. La référence au prophète juif est constante tout au long de l'histoire afro-américaine. Ainsi, à la veille de la guerre de sécession, l'acharnement de l'ancienne esclave Harriet Tubman à repartir dans le sud pour y libérer d'autres captifs lui vaut le surnom de Moïse Noir. Dans les années 1920, le Black Moses prend les traits de Marcus Garvey, le leader nationaliste noir qui cherche à conduire les Afro-Américains en Afrique, la terre-mère.
Moses, Don't you let King Pharaoh overtake you. Moses, Moses, don't you let King Pharaoh overtake you.
Les références bibliques des Spirituals trouvent un écho dans le quotidien des populations serviles du Dixieland. L'Égypte évoque le sud esclavagiste, Israël les esclaves, le Pharaon les maîtres planteurs. La référence au Jourdain et aux rivières en général évoque l'Ohio qui marquait la limite entre les États esclavagistes et ceux qui ne l'étaient pas. La Terre promise prend les traits du Canada, synonyme de liberté. I wanna try on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Wanna try on my long white robe down by the riverside. Study, want no more. Nous venons d'entendre Down by the Riverside, un spiritual interprété ici par les bluesmen Sonny Terry et Bronnie McGee. Ils chantent. Je vais déposer mon lourd fardeau le long de la rivière, Seigneur, le long de la rivière, et je ne m'occuperai plus de la guerre. Les Spirituals se muent parfois en outils de communication mis au service de l'Underground Railroad. Ce chemin de fer souterrain désigne le système permettant d'organiser la fuite loin du sud esclavagiste. Afin de s'exprimer sans risque, les esclaves noirs américains se dotent de tout un jargon métaphorique incompréhensible des maîtres. Les esclaves n'empruntent pas de train, encore moins de tunnel, mais reprennent en revanche à leur compte le champ sémantique du rail. Ainsi, le chef de train ou conductor est celui qui, connaissant la région, conduit les esclaves en fuite jusqu'à une station. On désignait par ce terme le domicile ou le refuge mis à disposition des fugitifs par des soutiens de la cause, souvent des Quakers blancs. Ils y trouvent un abri, de quoi se restaurer, et un peu d'argent pour poursuivre leur route. Les stations, distantes d'environ 20 miles, constituent autant d'étapes sur le chemin vers la liberté, à l'instar d'une ligne de train. Le train occupe donc une place centrale dans de nombreux spirituals, et monter à bord devient synonyme de liberté. Oh, listen, don't you hear the whistle blow? Oh, listen, it's the gospel train I know. She seems to be in such a hurry, she has so many places to go. But she's traveling, truly traveling, I know. Get your ticket, have it signed, or you'll be left behind. There's no waiting on this line, this train runs on God's own time. At the station, pour se déplacer, outre le train, les conducteurs utilisaient des moyens de transport discrets mais pratiques, tels des chariots bâchés ou des charrettes à double fond. La plupart du temps, les fuyards se reposaient la journée et ne voyageaient que de nuit afin d'être les plus discrets possibles. Dans les Spirituals, ces véhicules de fortune empruntent un itinéraire ascendant pour mieux atteindre le paradis céleste. Exemple avec le célébrissime Swing Low, Sweet Chariot. Swing Low, Sweet Chariot, come in to care. Si l'on en croit Harriet Tubman, les chants servaient parfois de messages codés à l'intention des esclaves en fuite. Wade in the Water incite à gagner le lit des rivières afin d'échapper aux poursuivants et à l'odorat de leurs chiens. Follow the Drinking Gourd incite à suivre une constellation en forme de gourde située vers le nord, la Grande Ourse pour nous. Les paroles de cette chanson fournissaient donc une indication précieuse aux esclaves en fuite. Je cite « Suis la Grande Ourse et le vieil homme t'attend. Pour te mener vers la liberté, suis la Grande Ourse. » Ici, la fusion évasion-rédemption, liberté, royaume céleste est flagrante. Déploration sur la mer perdue, Sometimes I Feel Like a Motherless Child rappelle que les enfants d'esclaves vendus par leur maître étaient arrachés à la plantation et donc séparés de leurs parents. Chanson poignante de douleur et de désespoir, encore sublimée par l'interprétation du soulman Ovie Wright.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
Intéressons-nous maintenant aux mutations et transformations musicales du genre. Ces chants s'expriment d'abord au sein des communautés de manière fonctionnelle. Généralement chantés a cappella, ils s'accompagnent parfois de claquements de mains, de petites percussions, de fifres. Le titre « Bullaland » interprété par John Davis et Bessie Jones fait ainsi entendre une petite flûte. Cet enregistrement réalisé par l'ethnomusicologue Alan Lomax dans les îles isolées de Si, en Géorgie, semble offrir une version authentique des spirituals originaux. Les spirituals remontent au moins au 19e siècle, mais ne seront pas gravés avant 1920. Encore privilégie-t-on alors l'enregistrement d'une version aseptisée, celle qui se développe au sein des chorales des premières universités noires du Sud. En 1871, les Fisk Jubilee Singers se lancent dans une grande tournée nationale et même internationale. Le succès rencontré contribue à la médiatisation de cette musique. Pour se rapprocher des canons européens, les voix sont lissées, la musique harmonisée et débarrassée de toute aspérité. Cette manière édulcorée d'interpréter les spirituals, présentée comme authentique, débarrassent les chants de leur dimension douloureuse. Les cantatrices classiques noires telles Marian Anderson reprennent ensuite à leur compte cette manière d'interpréter. Dans les années 1920, Thomas Dorsey contribue à donner naissance aux gospel songs, autrement dit les chants de l'évangile. En effet, à la différence des spirituals, le gospel prend pour sujet les textes du Nouveau Testament. Sa plus célèbre composition, Take My Hand, Precious Lord, sera sublimé par la très grande soliste Mahalia Jackson. Souvent accompagnée de petites formations rythmiques, chanteurs et chanteuses se produisent sur scène en dehors des offices religieux.
Take my hand, precious Lord, and
au cours des années 1930. Des quatuors vocaux, accompagnés généralement d'un guitariste, donnent naissance à un style harmonique et polyphonique dont le Golden Gate Quartet devient le fer de lance. Le superbe Shadrach que nous avons écouté précédemment raconte l'histoire de ce jeune hébreu jeté vivant dans une fournaise sur ordre de Nabucodonosor. Il est finalement sauvé par un ange.
I know I've got religion and ain't ashamed to let your light from the lighthouse shine on me. Angels in heaven down the road, my name, let your light from the lighthouse shine on, let it shine on, let it.
Au fil des décennies, spirituals et gospels sont repris et adaptés aux goûts musicaux de l'heure par les musiciens profanes. Dans l'entre-deux-guerres, Blind Willie Johnson insuffle une bonne dose de blues dans le gospel, comme le prouve Let It Shine On Me. Sur l'album The Good Book, Louis Armstrong, quant à lui, mêle jazz et gospel. Au cours des années 1960, la soul supplante le gospel, mais les artistes de la musique de l'âme n'hésitent pas à reprendre à leur compte les classiques du répertoire religieux, que l'on songe à Aretha Franklin ou Al Green, dont le Jesus is Waiting annonce déjà sa future carrière de pasteur.
Jesus is waiting. If you're broken down, Jesus is waiting. Oh.
Pour conclure, il ne paraît pas inutile de rappeler que, bien après la fin de l'esclavage, Spirituals et Gospel ont accompagné les combats des Afro-Américains dans le cadre du mouvement des droits civiques, comme le prouve l'implication constante de Mahalia Jackson ou de Staple Singers aux côtés de Martin Luther King. Avant de se quitter, un dernier conseil lecture avec L'Underground Railroad de Colson Whitehead. L'auteur y dépeint le monde de la plantation avec un grand réalisme documentaire. Puis il narre la fuite d'esclaves dans le cadre de l'Underground Railroad, mais sous sa plume, le réseau de fer souterrain n'a rien de métaphorique. Dès lors, le roman historique bascule dans l'Uchronie. C'est passionnant et parfois éprouvant. À bientôt !